Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir, cet espace d'échange et de confidence qui permet de se raconter, d'être écouté, parfois de se libérer d'un fardeau pour reprendre le chemin un peu plus léger. Changer de petites choses qui au final en changeront des grandes. À propos de changement, nous sommes tous d'accord pour dire que nous changeons parce que les choses ou les gens autour de nous changent. Mais si on s'ouvrait à la perspective inverse? Si on se disait que les choses changent quand on commence nous-mêmes à changer? Quand on quitte la colère, la jalousie, l'envie, la peur, le découragement, la rancune, quand on se débarrasse enfin de ça et qu'on se tourne vers des émotions plus positives, alors les choses commencent à changer. C'est difficile bien sûr de s'éloigner de ces émotions, de ces sentiments lourds quand on est englué dans les soucis, dans le chagrin, dans la maladie, mais c'est pourtant un premier pas essentiel à notre mieux-être. Alors ce premier pas, venez le faire avec moi ce soir. Je suis là pour vous écouter et si je peux vous aider, j'en serai ravie. Appelez-moi au 3921, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui vous guideront avec leur éternelle gentillesse jusqu'à moi. Si vous souhaitez donner votre avis, participer par SMS, eh bien vous faites le 73921 en commençant par le mot « nuit » suivi de votre message dont je me ferai la porte-parole à l'antenne. Enfin, si vous souhaitez nous joindre par mail, vous connaissez l'adresse maintenant, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. C'est Benoît qui réalise notre émission. Enfin, ma question pour mieux vous connaître ce soir, notez bien: est-ce que vous écoutez souvent la Libre Antenne en podcast? Et si oui, à quel moment de la journée est-ce que vous écoutez notre Libre Antenne en podcast? Et si oui, quand? Répondez-moi par SMS 73921 en commençant par le mot nuit.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et le premier appel que je prends ce soir sur notre Libre Antenne, c'est l'appel d'Annick. Bonsoir Annick.
Oui, bonsoir.
Alors, on me dit que vous souhaitiez réagir à l'émission d'hier.
Oui, je voulais réagir à l'émission d'hier parce que, en écoutant Claire et ce qu'elle disait pour sa fille Marie, je reconnaissais des choses que j'ai rencontrées dans mon métier d'infirmière autrefois et puis je me suis reconvertie après dans la communication, j'ai rencontré ça.
Annick, attendez, si vous le permettez, je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là hier soir parce que ça va être compliqué de raccrocher les wagons pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle.
Oui.
Donc ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai eu d'abord une première Claire, qui est une maman d'une jeune fille lourdement handicapée qui nous racontait son désespoir quand elle s'est rendue compte que sa fille était couchée à 17h dans le centre dans lequel elle est.
Oui.
Et que finalement, elle se rendait compte que le personnel n'avait juste pas le temps de s'occuper d'elle comme elle l'aurait souhaité.
Oui.
Et juste après, j'ai eu un appel d'une autre Claire, qui elle était personnelle soignante, elle était infirmière, et qui nous expliquait son désespoir justement de se rendre compte à quel point le personnel soignant n'avait pas les moyens de faire mieux, de faire autrement. Et l'échange entre les deux était vraiment très intéressant. Voilà, merci pour ce petit espace de récapitulation.
Oui, excusez-moi.
Récapitulation, ça se dit ?
Oui, ça se dit.
D'accord, j'ai eu un doute en le disant. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait réagir, vous, Annick ?
Alors, ce qui me fait réagir, c'est que je trouve en fait qu'elle parlait du même problème et qu'il y a des solutions. Et ces solutions, par contre, elles n'arrivent pas. Et bon, j'ai 65 ans, j'ai été infirmière en 73, en 74, il y avait des revendications qui existaient. Et c'était les mêmes revendications que ce qui existe aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'on disait hier, ça n'a pas changé depuis des décennies.
Ça a changé depuis des décennies. En 1974, on revendiquait une reconnaissance du travail. Mmh. On revendiquait des salaires plus adaptés au travail. Mmh. Et puis, on avait besoin de valoriser notre rôle. Je pense qu'il y avait les infirmières, mais il y a aussi, je pense, comme ça se passe aussi avant, dans tous les services hospitaliers, il y a une hiérarchie qui est grande. Hein, il y a énormément de strates, beaucoup de métiers. Et au lieu de... Il y a une gouvernance verticale, hein, l'organisation très verticale, bien souvent. Et le bas des échelons, c'est souvent l'ASH, les soignants hospitaliers, les aides-soignants. Et puis tout en dessous, l'objet du travail, qui est le patient. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de mener des rythmes quand il y a beaucoup de... comment dire, quand il y a des événements comme le Covid. Mais moi, j'ai connu aussi la sécheresse en 76. Je me souviens que quand on arrivait dans le service, il n'y avait plus de place dans la morgue. Donc, il y avait des personnes décédées qui restaient dans les chambres. Quand on arrivait dans le service, on sentait. Ah, il y a eu des morts.
Oh là là.
On ne va pas pouvoir... Bon. Vous voyez, il y a des choses qui sont très glauques. Bon, ce que j'appellerais les coups de bourre. Et puis, il y a le quotidien où le fait de vivre des choses, on n'a pas l'impression... Il y a cette hiérarchie qui est assez pesante, le besoin de rentabiliser les services aussi, qui fait qu'il y a une pression qui est assez forte. Je pense qu'on a diminué beaucoup le nombre de personnel pour rentabiliser beaucoup plus. Et ça amène aussi des incohérences.
Et des situations extrêmes comme celles dont on parlait hier. Quoi, ouais.
Oui, alors hier, par exemple, c'est vrai qu'à 17h, les personnes sont couchées. Ce qui est terrible, c'est qu'on leur donne leur repas une fois qu'elles sont au lit. Imaginez qu'on nous fasse la même chose. On a organisé des services de 2 fois 12 heures. Donc pendant 12 heures, on soigne, pendant 12 heures, on garde. C'est ce que j'ai entendu hier avec la garde de nuit. Et à l'époque, c'est vrai que c'était 3-8. C'était des soins 3 fois 8 heures. Toute cette pression qui existe dans le service, elle retombe aussi sur le patient.
Bien sûr.
Et le patient, j'ai l'impression que tout s'enchaîne et que ça arrive, sur l'objet du travail. Et le patient, on banalise un petit peu sa situation. On banalise même beaucoup. Les cas, on s'y habitue. Les gens qui ont mal, on s'y habitue. Je me souviens, parce que mon mari était interne dans une maternité, je me souviens d'une sage-femme qui commençait à dire, quand elle entendait crier une personne qui allait accoucher, je vais y aller parce qu'elle commence à chanter. Vous voyez, il y a une banalisation de la douleur, là. J'entendais pas parler forcément de madame un tel ou madame une telle, j'entendais la bonne femme. Ça a continué. J'ai été hospitalisée pour une bricole, c'était pas madame un tel, j'entendais, faut descendre la luxvalgus. La luxvalgus, c'est un petit problème de pied qui s'opère facilement, je m'appelais la luxvalgus. On s'appelle on aussi. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'infantilisation. Alors, à 17h, on va aller au fauteuil.
Ou alors le pire, c'est elle. Elle a bien pris ses médicaments ?
Oui, elle a fait pipi.
Oui, c'est ça.
Elle a fait pipi.
Alors, en même temps, Annick, Dieu sait que je suis totalement d'accord avec vous et que je pense que tous ces gens-là devraient être formés.
Tout n'est pas comme ça. Tout n'est pas toujours comme ça.
À leur décharge, la majorité de ces gens-là n'ont jamais été formés pour utiliser le bon vocabulaire.
Oui.
Et je sais à quel point ils sont épuisés et qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Donc, une fois de plus, ça n'excuse pas.
Non, ça explique. Et j'ai justement animé des formations et dans ce sens-là, avec des infirmières et aussi des hôtesses d'accueil de clinique. Et c'est vrai que quand on leur donne conscience de ce qui se passe, quand elles se remettent en question et elles apprécient encore plus leur travail derrière. Et je pense qu'il ne faut pas leur faire porter de jugement de valeur par rapport à ça, parce que ce sont des habitudes. C'est une façon de s'exprimer.
Et puis une fois de plus, on se rend compte, moi j'échange beaucoup avec des gens qui sont dans ces métiers-là, qui ne savent pas, c'est juste qu'on ne les a pas formés. Quand je commence à leur expliquer...
Même les médecins.
Bien sûr, je commence à leur expliquer par exemple que notre cerveau ne comprend pas la négation. Alors, il me regarde avec de grands yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant bleu », la première image mentale que vous allez vous faire, c'est l'éléphant bleu. Donc, quand vous dites à un patient « ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça fait pas mal », qu'est-ce qu'on entend ? Inquiéter, peur, mal. Et donc, petit à petit, je leur dis « s'il vous plaît, transformez ces formulations-là en formulations positives. Soyez rassurés. »
C'est important.
Ça sera, au pire, ça sera voilà, tous ces termes-là, surtout quand on est ultra sensible, parce que forcément, quand on est dans un milieu médical, en tant que patient, on est encore deux fois plus sensible qu'à l'extérieur. Chaque oui. regard est interprété, chaque mot nous nourrit pendant des heures et des heures. Mmh. Mais quand vous avez raison quand vous me dites, quand ils le comprennent, ça change aussi leur vie à eux.
Oui.
Parce qu'ils
oui.
se rendent compte que les relations avec les patients et les relations entre eux sont bien plus agréables et plus faciles après.
Oui, et quand le patient devient un objet de travail intéressant, je pense que ça les valorise aussi.
Bien sûr.
Parce que le patient, il n'y a pas que le soin, on voit l'infirmière avec les piqûres, etc. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Je pense au change, on parlait des couches et des hier.
Oui, tout à fait.
Puis, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre des couches à une personne que de respecter son rythme biologique et puis de la mettre sur une chaise percée.
C'est de l'accompagner, oui.
Oui, mais ça fait partie de la vie et et c'est aussi une chose là qui me fait mal parce que je suis aidante pour ma mère. Ma mère a 103 ans.
103 ans ?
103 ans et elle est en pleine forme. Mais quand elle avait 100 ans, elle était en mauvaise forme. Et elle ne voulait pas aller en EHPAD. Parce qu'elle, pour elle, aller en EHPAD, c'était rentrer un petit peu comme au pensionnat. C'était pas trop son genre. Hein. Elle voulait rester dans sa maison, puis on l'a respectée. Il y a des aides à domicile qui sont venues et un service infirmier. Le service infirmier, écoutez, pendant 18 ans, ça a été super. Et ils ont connu ma mère qui gérait elle-même ses affaires, qui payait ses soins avec elle faisait elle-même ses chèques, etc. Puis un petit peu à la fois, mais elle a diminué. Et on était obligé de faire, parce qu'on a tous une vie active, de faire venir des aides à domicile. Et là aussi, il y avait un grand manque de formation. Hein, ce sont des personnes, quelquefois, qui sont recrutées sans formation.
À la va-vite aussi, parce qu'on manque de personnel, j'imagine.
Oui, pas ça, partout. Parce que là, on a changé d'association, mais elle a dû déménager. Ma mère a déménagé à 103 ans et s'est adaptée. Hein.
C'est incroyable, ça. Quel beau témoignage.
Oui, et c'est un beau témoignage, un bel exemple. Mmh. Et elle a, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, en fait, beaucoup de personnes se suivaient. L'aide à domicile envoyait trois fois par jour des personnes au moment des repas, lui présentait le repas, mais comme elle disait, j'ai pas faim, le repas était régulièrement jeté. Donc on avait des rapports un cahier de liaison, et puis... repas, petit déjeuner, du pain, de la confiture, ainsi de suite. On avait aussi le parfum de la confiture, mais c'est pas pour autant qu'elle mangeait. Puis on s'en est rendu compte parce que elle a eu des troubles physiques, elle était déshydratée, et puis on pensait qu'elle était bien suivie, bien. Et je suis restée chez elle, et puis j'ai remarqué que les repas étaient vite partis. Au bout d'une semaine, j'ai observé. Au bout d'une semaine, j'ai vu aussi que c'était jamais les mêmes personnes qui venaient. Donc, vous avez des personnes qui arrivent chez des gens qui ne savent pas où se trouvent les assiettes, où se trouvent les petites cuillères.
Il n'y a pas de suivi.
Et comme elles ont une demi-heure pour tout faire...
On perd un temps précieux, là, évidemment.
Oui, oui. Bon, donc et je n'ai jamais vu, jamais, la responsable du secteur passer. C'est-à-dire que les familles voient les responsables... au moment de la commande, je dirais, et puis après, elle n'existe plus. Tant qu'on ne respecte pas, il n'y a pas de retour. Non. Donc, à chaque fois, pendant 3 ans, je suis restée, on s'est relayé un de deux, mon mari et moi, pour l'accompagner. Et puis, on a réussi à mettre en route un rythme. Et ma mère, alors là, elle nous a impressionnés. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention. Et là, je pense qu'il y a une banalisation aussi de la vieillesse. En 15 jours, on a vu ma mère se réveiller. C'est-à-dire qu'elle avait des troubles, elle avait du mal à déglutir. Tous les symptômes qu'elle avait étaient des symptômes d'une personne malnutrie.
Ah.
Oui. Et on lui donna à manger normalement, sans médicaments, parce qu'à 103 ans, elle ne prend aucun médicament, sans médicaments, en respectant son petit rythme, eh bien, elle s'est remise à vivre. Et puis, je pense qu'elle en a profité, entourée d'affection, puis des visites régulières.
Annick, on marque une courte pause, si vous le permettez, puis vous me racontez la suite de l'histoire dans une poignée de secondes. Annick, vous êtes là ?
Oui.
Oui, vous me disiez donc qu'en quelques jours, elle a retrouvé du poil de la bête, si on peut dire.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et bon, ce qui montrait bien quand même qu'elle était mal accompagnée. Hein, ouais. Et que les cahiers de liaison, bah, on marque ce qu'on veut. Et si la personne. Et je pense aussi qu'il y avait ce cliché, le cliché de la personne qui est centenaire, bah, c'est le moment où on meurt. Et ma mère, elle n'avait pas envie de mourir du tout.
Oui.
Bon, donc ça c'est... Et ça a été très difficile avec ce service parce que vous imaginez qu'on a quand même fait quelques petites réflexions service de soi. Même le service infirmier nous avait prévenu. Hein, si on était arrivé, c'est aussi parce qu'il y avait eu un appel des infirmiers. Ce que je ferais comme parallèle, c'est ce que je vois à l'hôpital, ce que je vois dans les EHPAD, et puis dans ces services à domicile. On parlait tout à l'heure de relations humaines qui étaient quelquefois mal conduites parce par manque de formation. Là, c'est la même chose. Vous avez encore une organisation verticale. On donne des ordres d'en haut, puis ça arrive en bas. Hein, et puis, c'est toujours l'usager. Pour ce qu'ils appellent, on appelle les usagers, les personnes qui font appel aux aides à domicile, qui sont en bas de... à la fin du parcours. Je ne dirais pas en bas de l'échelle, mais à la fin du parcours.
Au bout du chemin, on va dire, oui.
Au bout du chemin, oui, tout à fait. Et ça... Je trouve qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a une... comment dire... Un parallélisme à faire. J'ai l'impression que ça... qu'on retrouve les mêmes problèmes. Et ma maman, à un moment donné, on était obligés d'être de plus en plus là parce que dans l'organisme qui me donnait les soins à domicile, rencontrait de plus en plus de problèmes avec leur personnel qui était de plus en plus en arrêt de travail.
Ah oui.
Et quand le Covid est arrivé, alors je dirais qu'ils assurent à peu près la moitié des heures qui étaient prévues. Mmh. Hein, une trentaine d'heures au lieu de 65 sur le mois. Avec le Covid, c'était encore plus difficile. Et puis, moi, j'ai un fils qui est en grande difficulté. Et je m'occupais moins de lui. Mon mari et moi, on s'occupait moins de lui. Et ça s'est ressenti, il a été de plus en plus mal. Donc, il a fallu réfléchir à une solution pour ma mère. Qui voulait rester chez elle. Et elle est partie chez mon neveu, un neveu qu'elle a élevé parce que mon frère et son épouse sont décédés quand mon neveu était très jeune et ma mère l'a élevé. Et on a discuté des problèmes qu'on rencontrait, il a pris ma mère chez lui. Alors, il est célibataire parce qu'il est curé.
D'accord. Donc, elle était plutôt entre de bonnes mains.
Elle a été prise entre de bonnes mains et comme elle adore mon neveu parce que, quand elle l'a eu, on était tous mariés. Ma mère, j'ai oublié de vous dire, a eu 10 enfants.
Combien ? 8 ?
10. 10 enfants. 10 enfants, oui, oui.
Et sacrée femme, dit donc votre maman.
Ah oui, c'est une sacrée. Et mon père aussi d'ailleurs, mais il est décédé bien avant elle. Et elle a donc mon neveu l'a pris chez elle à 110 km de et on lui a expliqué, elle lui a pris les choses et on lui avait dit de toute façon si ça va pas ta maison est là, tu pourras toujours y revenir, hein, donc elle savait que si ça, et elle s'est très facilement habituée, ça fait depuis le mois de juillet qu'elle est chez lui et ça se passe bien. Et là, alors, le service à domicile, ça se passe, les aides à domicile, ça se passe très bien. Et le service infirmier, il fait son boulot, mais c'est assez familier avec ma mère. On l'appelle par son prénom, qu'elle a un autre prénom que le sien, l'appelle Marie, c'est pas son prénom. Alors qu'elle a toujours été appelée et habituée à ce qu'on l'appelle madame une telle, qu'on la voit. Quand on fait sa toilette intime, c'est « Allez, on va laver la pépette ».
Oh là là, il n'y a aucun respect. Quoi.
Non, non. Mmh. Par contre, le travail est fait. Et là, ça me met en boule parce que je me culpabilise pas d'être moins là. Et puis, mon neveu m'a dit « Oui, mais le principal, c'est peut-être que le travail soit fait ».
C'est vrai aussi, mais, oui. Mais pas que. Le problème, c'est que c'est un ensemble.
Oui. Oui, et j'ai très peur de revenir quand une infirmière s'exprime comme ça, parce que en ayant exercé, je me suis jamais permis de faire ça m'est jamais venu en tête
Oui, c'est sûr, vous avez un
de.
regard encore différent, étant du métier vous-même. C'est forcément encore plus difficile pour vous parce que vous savez que ça se fait pas, quoi, simplement.
Non, non, ça se fait pas.
Et oui.
Et elles sont trois. Elles sont trois, il y en a une principale plus que d'autres. Bon, alors je me dis quand je vais. Ma mère, heureusement, bon, est mal, très très malvoyante et très malentendante. Je me dis, j'espère qu'elle n'entend pas, parce que ça lui ferait mal. Parce que Marie, bon, c'est peut-être la Vierge Marie pour les gens catholiques, mais pour les gens qui ne sont pas, c'est aussi Marie Couchiola, Marie Salope. La Marie Salope, c'est une serpillière. Hein.
Est-ce que vous
Donc.
pourriez vous permettre de les recadrer en douceur?
Alors, il faut que j'y arrive et je suis en train de me préparer à le faire, mais j'espère ne pas faire passer l'affectif. Parce
Oui, c'est pour ça,
que. Oui.
c'est une bonne idée de vous préparer pour pas que ça sorte un peu n'importe comment,
Non.
si vous voulez. Ça, c'est.
Oui, ça risque d'être assez cinglant. Et.
Ça risque d'être contre-productif si vous êtes trop
Oui,
cinglante et
tout à
peut-être que
fait.
ça sera pas le résultat escompté.
Non, non. Je pense que ça servira à rien. Ouais, ou je me tais, et puis bon, j'attends que ça se passe. Ou bien alors, je trouve une plaisanterie. Je peux très bien appeler l'infirmière Simone. Parce
Ou
que
alors
maman,
vous
pourquoi
restez dans le
j'appelle Simone?
factuel,
Je ne sais pas.
simplement, vous ne jouez pas la carte de l'émotionnel,
Oui.
vous restez dans le factuel.
Et je ne sais pas comment faire. Quelquefois, je me dis, je vais lui dire, heureusement qu'elle n'entend pas. Je serai. Ou bien. C'est dommage que vous ne l'ayez pas connue avant.
Vous savez, dans ces
Je ne
cas-là,
sais pas.
ce que je conseille souvent pour éviter le conflit, c'est de ne pas parler de l'autre. C'est-à-dire ne pas dire vous avez dit si, vous êtes comme si, vous faites ça,
Oui.
mais dire
Oui.
je suis mal à l'aise quand je vous entends parler comme ça. Je me sens. Ça me choque, ça me gêne.
La première fois que je l'avais vue, cette dame, elle voulait que j'appelle par son prénom. Et je lui ai dit, mais on ne se connaît pas assez, je vais avoir du mal.
Oui, ben voilà, vous avez le droit aussi de dire ce que vous ressentez sans être dans une accusation pour éviter l'escalade de l'agressivité, évidemment.
Ça servira à rien, cette escalade. Et
On est
c'est
bien
vrai
d'accord.
que.
Mais en même temps, je comprends que vous pourriez basculer dans quelque chose d'émotionnel, et c'est normal. C'est pour ça que je me permets de vous conseiller de parler plutôt de
Oui.
ce que vous ressentez plutôt que de ce que l'autre a fait.
Ça me fait mal au cœur pour ma mère parce que j'ai connu, c'est une belle dame, quoi. Elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle s'est pas occupée que de ses enfants. Elle a fait partie, après-guerre, des gens qui ont créé les UDAF. Vous voyez, c'était des gens qui ont peut-être eu beaucoup d'enfants, pas malgré eux parce qu'il n'y avait pas la contraception, mais parce qu'ils le voulaient aussi, hein.
Oui. Oui, j'entends bien à travers votre récit que c'est une femme, une forte personnalité, quoi, c'est quelqu'un.
Ah, c'est quelqu'un qui avait du caractère, et puis qui perd ses capacités. Mais donc la difficulté aussi, c'est de se trouver devant des personnes qui la voient aujourd'hui telle qu'elle est, hein, avec
Et pas avec
c'est
votre regard à vous, bien sûr.
non, pas
Et
du
oui,
tout.
ça c'est normal.
Mais je trouve que les soignants gagneraient à savoir qu'une personne âgée n'est pas une personne. C'est pas une personne qui est invalide, c'est une personne qui a vécu, on est là aussi grâce à elle. Je trouve, un manque de respect par rapport aux personnes âgées. Et que je reprends, c'est pour ça que le témoignage de Marie m'avait un petit peu touchée hier,
De Claire, vous voulez dire?
de Claire, oui,
La
par
maman de
rapport à sa
Marie,
fille Marie.
oui.
Oui, c'est que dès qu'une personne n'a pas les capacités, je dirais, ne rentre pas dans les normes, j'ai l'impression qu'on la prend. Dès qu'une personne est un peu vulnérable, on la prend de haut, on la. Quelquefois, cette familiarité, je pense que les gens le considèrent ça un peu comme une expression affective. Hein?
Alors après, moi, je vous dirais,
Je sais
Annie,
pas.
que tout dépend de l'intention. Quelquefois, ça peut être mal perçu parce que c'est maladroit, mais si
Oui.
l'intention est positive, moi, je dirais que ce n'est pas un problème à ce moment-là. Mais
Oui.
ce qui est intéressant toujours dans ces cas-là, c'est de comprendre l'intention. Si c'est
Oui,
fait, si c'est
alors
fait
là,
avec
c'est pour.
un léger mépris ou une condescendance, alors là, ce n'est pas acceptable.
Oui,
Si c'est de la
c'est ça.
maladresse, à ce moment-là, il faut juste expliquer à la dame que ça vous gêne, quoi. tout simplement.
Oui. Bon, alors là, c'est moi. Bon, à la limite, peu importe. Mais c'est pour ma mère le choc et pour les autres. Parce que ce qui lui arrive, ça arrive très souvent. Et c'est là-dessus que je... que je suis touchée. Parce que dans nos métiers, on n'a pas à faire ça. Le respect, on a des codes. Le langage, c'est un code. Et dès lors qu'on tutoie quelqu'un, qu'on le rebaptise autrement que par son nom, je pense que je trouve pas le mot.
C'est un manque de respect. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez.
Oui. Oui. Et puis c'est vrai que c'est condescendant dès lors qu'on se permet ça. Je pense qu'une personne qu'on appelle par son prénom, c'est parce qu'elle nous l'a demandé. Hein? Mais pas et le respect aux personnes âgées, je trouve qu'il est normal aux personnes handicapées aussi. Oui. C'est pas parce qu'une personne est un petit peu un manque de capacité que elle n'a pas le droit, même respect tout le monde. Ça fait partie des codes du langage.
Déontologique aussi tout simplement. Ça s'appelle se mettre en position haute ce qu'elles font.
Oui.
Et mettre l'autre en position basse. Maintenant une fois encore, pour moi ce qui est vraiment important c'est l'intention. Parce que si l'intention n'est pas négative, alors il suffit d'un petit recadrage. Dire, écoutez, je sens bien que voilà, vous êtes très sympathique et vous pensez que blablabla. Mm-hmm. Moi, je ne crois pas que tutoyer ou se comporter comme ça, ça soit approprié dans ce cas-là. Et si la personne, si son intention est positive, je pense qu'elle peut parfaitement entendre ça. Oui. Après, si l'intention n'est pas positive, alors effectivement, il faut recadrer de manière un petit peu plus sévère.
Tout à fait.
C'est juste une question d'intention de la personne. Parce que, quelquefois, je pense que c'est juste aussi la maladresse.
Oui.
Il y a des gens qui ont
c'est
une maladresse.
Côté...
Il y a des gens qui ont ce côté, vous savez, ils vous tapent sur l'épaule, ils vous tutoient, ils vous parlent comme si on avait gardé les chèvres ensemble la veille. et c'est assez marrant parce que ça m'arrive aussi de temps en temps, je reçois des courriers comme ça, et selon l'intention, je le prends bien ou mal. Il y a des gens, ça me fait sourire et ça me touche, d'autres, ça m'agace terriblement. Et ça dépend pas de l'intention, c'est toujours pareil.
Alors, je fais aussi un parallèle entre le service d'aide à domicile qu'elle avait dans son habitation avant et ces infirmières qui sont comme ça. Et souvent, cette familiarité, cette infantilisation, puisque bon, les mots genre pépette et tout ça, je trouve que c'est pas. Hein,
oui,
c'est une infantilisation.
C'est moyen, ça, oui.
Oui, mettre une couche et ne pas mettre sur la chaise percée, n'est pas aidé à mettre sur la chaise percée alors que la personne n'est pas incontinente.
C'est encore autre chose, on va bien au-delà des mots, là, c'est autre chose. C'est presque une maltraitance par moment, ça.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Hein? Et c'est ce qui s'est passé aussi avant avec des aides à domicile qui ne se rendaient pas compte qu'une personne ne pouvait pas se contenir une journée entière.
Je comprends, Annick, mais quand Claire, l'autre Claire, nous dit que c'est désespérant parce que les pauvres infirmières, elles ont 20 personnes qu'elles n'ont pas les moyens, pas le temps. Où est la solution?
Alors, c'est ça la solution. C'est là-dessus que je voulais en venir aussi. Parce que c'est la banalisation. On banalise tellement que on en vient à voir la rentabilité. On en vient à voir la rentabilité d'un service. Moi, après avoir été infirmière, j'ai refait une formation. Je suis rentrée, une reconversion. Et j'ai une agence de communication, de publicité. Et donc, j'étais amenée à rentrer dans beaucoup de structures. Et puis, de fil en aiguille, une partie de ma clientèle, c'était des structures hospitalières. Hein. Et j'avais souvent, c'est très récent, l'objectif c'était la rentabilité, accueillir plus de clients. Et donc on montrait tous les côtés positifs des structures.
C'est ce qu'on disait hier, c'était la vitrine.
C'est la vitrine,
oui, tout à fait.
Et par exemple, je me souviens d'un établissement qui soignait des personnes cancéreuses. Il faut savoir que les soins, certains médicaments pour les cancéreuses sont très très chers. Et dans cet établissement, quand une personne atteinte d'un cancer en arrivait à avoir un traitement trop cher, on essayait de l'envoyer vers le CHR de la région. Oui. Donc, Et je comprends que derrière, on recherche la rentabilité. Mais moi, j'ai eu des salariés et j'ai remarqué une chose, c'est quand on les valorisait dans leur travail, quand on leur montrait que ce qu'ils avaient fait avait permis de bien réussir un événement, de booster une entreprise, que des ventes ont augmenté, ils étaient contents. Et ils étaient encore plus stimulés pour le suivant ou recommencer avec ce même...
Mais c'est exactement la conversation qu'on avait hier avec Claire, la deuxième. Oui. C'est que ça fait des décennies qu'on le dit, ça. On le oui. sait que c'est un problème d'argent, mais rien ne change.
Oui. Alors, ça coûte très cher, c'est vrai, les soins. Mais, comment dire... je pense que c'est, le bien-être de... Le bien-être, une bonne organisation permet sans trop d'argent, sans dépenser tant d'argent que ça, permet d'améliorer les choses, quelle que soit la structure. Et vous le retrouvez en entreprise.
Oui, peut-être aussi, effectivement, si les gens étaient mieux encadrés, mieux formés.
Oui.
Mais il faudrait reprendre des choses tellement à la base pour beaucoup de monde. Hein.
Oui. Valoriser le métier. Mais la formation, elle existe. Les employeurs cotisent pour payer des formations. Il y a des cotisations qui sont faites. Est-ce que les formations, justement, au bien-être en entreprise, au respect du client, parce que le patient, on peut dire que c'est aussi un client, ces formations existent, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont choisies. Et pourtant, je suis sûre qu'elles sont rentables.
Oui, peut-être qu'il faudrait les rendre obligatoires à un certain niveau.
Oui, dès lors qu'il y a du relationnel. Oui. Et alors, cette année, justement, les études de médecine ont changé. Et pour la première fois, il y a des formations qu'ils appellent humanitaires qui sont proposées aux premières années d'études de médecine, de ce qu'on appelle le tronc commun pour les kinés, les pharmaciens, etc. Et ça, je trouve que c'est bien. Cette fois-ci, on est, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui a été faite.
Moi, je vous garantis en tout cas que j'ai de plus en plus de personnel médical, alors que ce soit des infirmières, des médecins, des soignantes, et qui se forment effectivement ou qui se posent des questions. Et qui viennent parler de programmation neurolinguistique,
la PNL.
De PNL, tout à fait. Mmh. Qui viennent se former à l'hypnose pour gérer le stress et la douleur aussi. Parce qu'elles en ont assez de se sentir impuissantes. Et je trouve ça touchant. Beaucoup d'infirmières qui me disent, voilà, comment je peux apprendre l'hypnose pour pouvoir aider les gens que je n'arrive pas à aider parce que je ne peux pas passer ma vie à les bourrer de médicaments.
Oui.
Ou à ignorer leur souffrance, leur détresse. Oui. Donc c'est quand même des petits signes encourageants, même si je pense qu'il faudra... J'ose pas dire une génération, peut-être deux, pour que les choses commencent vraiment à changer.
Et justement, moi, j'avais envie de téléphoner pour ça, parce que je me dis, c'est qu'une petite goutte d'eau ce que je fais ce soir, mais appuyer là-dessus, demander ce changement. Quand je vois qu'en 74, on avait les mêmes revendications, qu'en 80, j'ai arrêté mon métier, j'ai fait autre chose parce que j'avais l'impression de servir à rien.
Oui.
Est-ce qu'on ne démotive pas du personnel? Bon, je peux rouspéter sur ce... Bon, je vous ai donné des exemples sur ma mère, sur ce que j'ai vu dans certains hôpitaux. Mais est-ce qu'on ne démotive pas les gens quand on banalise la maladie, qu'on devient un petit peu... On s'habitue à la douleur, on s'habitue à voir les gens. Et quand les gens souffrent... Et puis, on a toujours de bonnes excuses aussi, quelquefois, pour ne pas aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a cette fatigue, mais quand je repense, par exemple, au repas qui était jeté pour ma mère, pourquoi pas noter « n'a pas mangé » et puis la famille donne à manger derrière. Il y a des gens que je trouve très... qui sont empathiques et qui vont permettre aux patients d'aller bien. Puis il y a les autres, c'est leur objet de travail et puis... On a servi le repas, puis on n'a pas faim, on s'en va.
Espérons que les choses petit à petit vont changer. Annick, merci pour cette petite goutte d'eau. Merci pour votre témoignage, je vous embrasse et j'espère qu'avec plein de petites gouttes d'eau, un jour, les choses changeront.
J'aimerais bien.
Au revoir, Annick.
C'est qu'une goutte d'eau. Au revoir, bonne soirée.
Merci. Et c'est maintenant Linda que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir Linda.
Allô, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène, Linda?
J'ai un gros problème depuis maintenant des années et je ne sais pas comment le résoudre.
Oui.
Je ne sais pas comment commencer. Je joue dans les casinos. Et je ne sais pas ce qui me ramène là-bas. Je suis une personne pourtant de 67 ans et je fais des conneries, quoi.
C'est-à-dire, vous y allez à quel rythme?
Il y a des moments où j'y vais presque tous les deux jours. Et je ne joue pas beaucoup, mais le mois-là, j'ai vraiment exagéré. Je suis allée, je me rappelle toujours, le 7 du mois, malgré que la distanciation là et tout. Bon, ils font ça, il y a des sécurités, du gel, tout ça, mais comme, et pourtant j'ai peur, je suis diabétique et tout, mais avec ça, je suis allée, j'ai perdu 350 € et j'étais malade, quoi. Et puis, je ne suis pas allée pendant au moins 10 jours et je suis retournée la semaine là, fin de semaine, jeudi, je crois, et j'ai laissé 450 €.
Vous jouez à quoi?
Machine à sous.
Machine à sous.
Oui.
Mais ça, c'est fait pour être addictif, ces trucs-là, en plus. C'est très facile de se laisser attraper.
Moi, je suis complètement... Je ne sais plus quoi faire. Je vais vous dire tout de suite, l'année dernière, j'ai même appelé SOS Joueur. Et ils m'ont conseillé, parce que j'habite pas à Paris, j'habite à l'est de la France. Et ils m'ont dit qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de gens ici pour soigner ce truc-là. Et avec ça, ils m'ont conseillé d'aller voir une... Je ne sais pas comment que ça s'appelle. C'était un service où ils s'occupent plus des addictions d'alcool et de drogue.
Oui, addictologie, oui.
Oui, mais parce que c'est une petite ville, alors c'est pas... je suis allée quand même les voir. J'ai parlé avec... les psychologues qui étaient là-bas et tout, ils ont essayé, ils m'ont dit c'est le premier cas qu'on reçoit, parce que les gens, ils n'en parlent pas. Mais moi, pour moi, c'est que j'abuse, je me prive de plein de choses et je fais beaucoup de mal à mes filles. J'ai 3 filles et puis je leur fais beaucoup de mal parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi je... Rien qui m'intéresse à part ça. Et alors, je voulais me soigner. Et l'organisme-là, ils m'ont envoyé dans une famille au sud-ouest, je crois, oui. À Cahors, près de Cahors, c'est ça? C'est sud-ouest, je crois.
J'ai pas compris. Dans une famille, mais c'est une famille de quoi?
Oui, une famille comme ça. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient les gens qui prenaient... de la drogue et tout, et les envoyer là-bas chez des familles pour se sévrer ou je sais pas, parce qu'ils peuvent pas prendre et tout. Alors ils ont fait l'essai avec moi et ces personnes-là, c'est des gens qui habitent la campagne, et je me suis retrouvée dans une famille où on me laissait toute seule toute la journée. Je suis presque devenue folle, quoi, parce que j'avais pas droit à mon portable pendant une semaine, et puis on m'a rendu mon portable, mais ça allait un petit peu, j'appelais mes filles et tout, mais quand même, c'était pas agréable. Je trouvais ça, c'est pas des soins, c'est plutôt...
C'est une frustration plutôt qu'une solution, tout ça, j'ai l'impression.
J'étais vraiment mal au point que j'ai tenu 20 jours... Après, un jour, j'ai appelé l'association là qui m'a envoyé. J'ai dit, je veux plus rester, parce que les personnes, c'est une famille, un monsieur et sa femme, et toute la journée, ils partent, je ne sais pas, ils vont se balader et tout, et ils me laissent. Il faisait trop chaud à l'époque là, c'était le mois de juillet, l'année dernière, 2019. Et je suis devenue folle, quoi. Et je suis rentrée. Et puis, j'ai mis un bon moment, je ne suis pas allée. Et de nouveau rebelote, je suis de nouveau retournée.
Alors, on va parler de tout ça un peu plus longuement. La question que je me pose, c'est je ne suis pas une spécialiste du jeu, mais je pense qu'on peut se faire interdire de casino. Est-ce que vous avez pensé à ça?
Je me suis fait interdire, madame, justement. Mais le problème, j'habite dans une région. Je suis à la frontière allemande. Et là-bas, il y a des salles de jeu ouvertes toute la journée, toute la nuit.
Vous passez la frontière?
Oui.
Et votre interdiction n'est pas valable à l'étranger, j'imagine?
Non, l'interdiction, elle est valable aussi dans les casinos allemands, dans les vrais casinos. Mais le problème, c'est que maintenant, ils ont ouvert des salles de jeu partout. Dans une ville, on trouve une dizaine de salles de jeu.
Ah, qui ne sont pas des casinos?
C'est pas des casinos. Ils ont des endroits où ils appellent ça Spielbank. C'est des casinos par l'État, certainement gérés, ou je ne sais pas. Je ne connais pas beaucoup l'allemand, malgré que j'habite à la frontière. Mais il y a beaucoup de salles. Je me suis fait interdire il y a 4 ans. Mmh. Et l'interdiction, elle dure 2 ans. Mais les 2 ans-là, j'ai continué à y aller dans les salles de jeu.
Oui, je ne savais pas que ça existait. Ça, c'est pas très mal.
Oui. En France, ça n'existe pas. Mais en Allemagne, il y en a dans tous les coins de rue. Ils les ont mis tous à côté des banques en plus. Si vous perdez, vous sortez, vous avez la banque à côté. Et il y a la banque qui vous retire 5 euros de frais.
Sacrée manipulation, ce système-là, dedans.
Oui, c'est vraiment... je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je suis tombée dedans, ça fait déjà des années et des années. Et je ne sais pas comment que j'ai fait. Et je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis vraiment... alors, jeudi, j'avais mal toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Et ma petite, heureusement qu'elle est venue vendredi soir parce que j'ai mes filles, elles sont sur Paris. Et comme moi, je ne leur cache pas.
Oui, bien sûr.
Je leur dis la vérité parce que vendredi soir, hier soir, elle est venue pour me tenir compagnie parce que elles veulent que je me soigne. Mais moi, je ne sais pas à qui m'adresser pour me soigner.
Par quel bout attraper tout ça? On va en parler, Linda, si vous permettez, mais on va laisser passer les infos d'abord.
D'accord. Donc, Je reste en ligne.
Oui, s'il vous plaît, je vous récupère dans une poignée de minutes.
D'accord.
Merci, à tout de suite. On se retrouve donc pour cette deuxième et dernière partie de notre libre antenne, puisque nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin, vous le savez. Jusqu'à la fin de l'émission, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous souhaitez prendre la parole. Vous composez le 3921. Vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime, qui vous guideront bien sûr jusqu'à moi. 3921 donc si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Si vous préférez intervenir par SMS, donner votre avis, apporter un soutien, demander à être mis en contact avec quelqu'un, bien vous faites le 739-21 et vous commencez par le mot nuit. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Je récapitule, 3921 par téléphone, 739-21 en commençant par le mot nuit pour les SMS et libreantenne@europe1.fr pour vos mails.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Linda.
Oui.
Alors, j'aimerais vous poser quelques questions maintenant pour comprendre un peu comment ce comportement s'est mis en place. Ça fait combien de temps que vous êtes addict au jeu aux machines à sous?
Oh, ça fait longtemps. Ça fait au moins 15 ans.
Ça a commencé à quel moment de votre vie? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là?
Bah, écoutez... ce qui fait mon mari m'a quittée en 2003, ouais, juste à mes 50 ans. Pile. Mmh. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas si c'est dû à ma vie ou quoi, mais pour vous abréger, parce que ce serait trop long, ma vie, ça a été toujours un enfer. Mon enfance, ma jeunesse... l'âge où je me suis mariée. La seule chose que j'ai eue dans ce monde, c'est trois trésors, c'est mes filles.
Vos enfants, vos filles.
Voilà. Autrement, le reste, j'ai passé un enfer sur cette terre. Voilà. Et puis, malgré qu'au début de mon mariage, il m'a fait souffrir beaucoup, beaucoup. Il me battait et tout ça. Et tout. Et parce que moi, j'avais pas de parents non plus. J'étais orpheline. Mon père, je connais pas. Ma mère, j'avais 21 ans. Elle est morte sur mes bras et tout. Et puis, à 28 ans, je me suis mariée. Et puis, il m'a fait voir de toutes les couleurs. Et puis, au moment où j'ai eu mes filles, il s'est calmé un petit peu de l'alcool et tout. Mais ça, c'est devenu presque... je me rendais pas trop compte parce que je me basais que sur mes filles pour leur éducation, pour... et je ne sais pas comment vous dire. Une fois que ma fille avait 12 ans, la petite, c'était trop pour moi. Il m'a trompé et j'ai découvert. Et puis, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté parce qu'il s'est trompé de numéro. Il a envoyé un message. Au lieu qu'il envoie sa maîtresse, il est tombé chez ma petite qui, à l'époque, je lui ai offert pour son anniversaire de 12 ans le message. Et là, il m'a avoué. J'ai dit, parce qu'à vous, maintenant, c'est... Il m'a avoué, j'ai pas accepté. Il est parti avec une autre femme. Et puis voilà. Mmh. Et moi, je suis restée avec mes filles. Bon, j'ai jamais travaillé de ma vie. Il m'a jamais laissé travailler. Je vais travailler, mais quand j'étais jeune. On a souffert, mes filles et moi. Mais après, j'ai tenu le coup pour mes filles. Et puis, un jour, une de mes filles, elle voulait des chaussures. Et j'ai dit, viens, on va en Allemagne acheter des chaussures. Parce que je trouve que c'est moins cher un petit peu et tout. Et on est passé devant un casino, un vrai casino. Et j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses si on rentre un jour? Elle m'a dit, pourquoi pas, elle avait quand même 18 ans parce qu'il demandait la carte d'identité dans les vrais casinos.
Oui, tout à fait.
Et on est rentré, on a joué 10 euros, on a gagné 100 euros. Ah bah, j'étais contente.
C'est ce qu'on appelle la chance du débutant.
Oui, on est sorti de là-bas, je lui ai payé des chaussures et j'ai acheté à ses soeurs des petites bricoles. Et je suis rentrée et depuis, tout de suite non, mais j'ai attendu un mois, je crois, ou je sais pas, et ça a commencé l'enfer, quoi, dès que j'ai un tout petit peu, d'accord, je jouais pas beaucoup, je prenais 40 euros le maximum, 50, parce que on n'avait pas les moyens et tout, mais j'allais pas souvent non plus, je m'occupais de mes filles, j'avais une qui est partie à l'université, les deux autres, une lycéenne et l'autre au collège. Mais une fois qu'ils ont commencé à faire les études et ils sont partis de la maison, là, c'était régulier.
Alors, à part... Oui.
Oui, elle est ici, ma partante.
À part cette famille là où on vous a envoyé, est-ce que vous avez essayé autre chose pour vous sortir de là? Est-ce que vous avez cherché à vous faire aider?
Non, justement, c'est pour ça, je ne sais pas comment faire pour me faire aider.
D'accord.
À qui m'adresser?
D'accord.
C'est ça.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je travaillerais avec quelqu'un comme vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a une addiction, quelle qu'elle soit, on a deux parties en nous. On a une partie qui ne veut pas, qui dit non mais c'est complètement stupide, je ne veux pas faire ça, que ce soit le jeu, l'alcool, la cigarette, la nourriture excessive. Il y a toujours cette partie-là de soi qui est parfaitement adulte et qui ne veut pas. Et on a une autre partie de nous qui fait la bêtise quand même. C'est pour ça que souvent on dit c'est plus fort que moi. Je sais que je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Et cette partie-là qui est addict, c'est très souvent une partie enfantine. C'est comme un enfant qui cherche à combler quelque chose. Et c'est pour ça que ça ne me surprend pas quand vous me parlez d'une enfance extrêmement difficile, parce que très très souvent quand on est addict, on a cette partie de nous, cet enfant intérieur qui souffre encore et qui cherche à combler des choses. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ça se saurait. Si on pouvait réparer nos blessures en jouant, en buvant ou en se droguant, ça serait. Ça n'est pas, évidemment pas la bonne solution. Mais comme c'est l'enfant intérieur qui a ce comportement-là, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout de suite ce plaisir. Il veut un plaisir immédiat comme un enfant. Et donc, c'est intéressant de comprendre qu'on a ces deux parties en nous et de comprendre qu'en enlevant, comme vous m'avez dit, le sujet de l'addiction, c'est-à-dire en vous frustrant, ce n'est pas une solution parce que ça ne règle pas le problème. Si on vous empêche de jouer, il y a toujours en vous une grande souffrance.
Oui.
Et donc, je pense qu'il serait vrai. En tout cas, moi, je travaille là-dessus avec l'hypnose parce que ça me paraît extrêmement intéressant dans votre cas.
Ah.
Mais pas tout de suite sur l'addiction. Je pense qu'il faut d'abord aller réparer les blessures. Parce que cette partie de vous qui fait ça, elle souffre. Et elle pense, en allant chercher cette espèce de plaisir, parce que ça, c'est un plaisir très éphémère, mais c'est un plaisir quand même, elle cherche à compenser quelque chose. Mais évidemment, ça ne marche pas, parce qu'en faisant ce petit plaisir-là, vous créez un énorme déplaisir après. Parce que quand on se retrouve à la maison en disant « j'ai plus de sous », le plaisir, il est vite oublié.
C'est clair.
Et donc, je vous inviterais à travailler en hypnose là-dessus et à demander à votre thérapeute de travailler d'abord sur les plus grosses blessures de votre vie. Votre début de vie, quand vous étiez une petite fille, jusqu'à la violence de votre mari, jusqu'à ce divorce. Et quand ces blessures-là seront soignées, alors on fait ce qu'on appelle en hypnose une négociation entre parties. On se réconcilie avec soi-même et on arrête de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'une addiction, finalement, c'est ça, c'est se laisser mener par le bout du nez, par une partie de soi qu'on n'arrive pas à gérer.
C'est exactement ça. Et l'hypnose, c'est qui je peux m'adresser à qui pour l'hypnose?
À un hypnothérapeute.
Ah. Parce que j'étais suivie dans le centre psychologique quand mon ex est parti. Mais pour vous dire la vérité, à part me faire prendre plein de antidépresseurs, plein de médicaments, je ne sais pas les nommer parce que...
Anxiolytiques, antidépresseurs et tout à clic. Mais ça sert à étouffer l'enfant intérieur, c'est juste ça, à le faire taire.
Ça ne m'a pas aidé du tout, ça me fait dormir et dès que je me réveille, je pars quand même.
Oui, parce que le problème de fond n'est pas résolu, c'est ce que je vous disais. En vous empêchant, même quand bien même on vous attacherait les deux mains, on vous enfermerait dans une prison, le problème ne serait pas résolu pour autant. Le seul moyen de résoudre ce genre de problème, c'est vraiment d'aller soigner ces blessures qui sont bien, bien plus anciennes, qui sont la cause. L'addiction n'est qu'une conséquence. Donc il faut d'abord aller travailler sur les causes. Et d'après ce que j'entends, Linda, vous avez peu de moyens financiers.
Oui.
Alors, je vous invite à contacter une association qui s'appelle les Hypnos du Cœur.
Hypnos du Cœur.
Les Hypnos, abréviation d'hypnothérapeute, les Hypnos du Cœur. Vous trouverez leurs coordonnées sur Internet.
D'accord.
Ils proposent des séances soit très peu chères, soit gratuites aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Et il y en a, je ne connais pas par cœur les villes, il y a 3 ou 4 villes en France où ils proposent leurs services comme ça. Ou peut-être même à distance, par téléphone ou par Skype.
D'accord.
Mais je pense que ça serait une bonne approche pour vous aider à petit à petit sortir de là.
Il faudra que je note, à moins que mes filles peuvent écouter. Parce que, pareil, mon cerveau, je ne sais pas si c'est les casinos qui m'ont fait ça ou l'âge, mon cerveau, il commence à... Bon, on pourra écouter, je crois, sur le...
Pourquoi, qu'est-ce que vous n'avez pas noté, là? Je peux le répéter, hein, si vous voulez.
Oui, pour...
L'association?
L'hypnose, oui, l'association.
Les hypnos, donc hypnos, c'est l'abréviation de hypnothérapeute. Les hypnos du cœur.
Les hypnos du cœur, d'accord. Ouais. D'accord, je vais suivre votre conseil, d'accord. Parce que je ne peux pas continuer comme ça... Je souffre et mes filles, elles souffrent avec moi.
Bien sûr, toute addiction est toujours une grande souffrance pour soi et pour l'entourage, évidemment.
Oui.
C'est comme si on avait perdu le contrôle complètement et qu'on n'arrivait plus à faire ce qu'on veut faire.
C'est ce qui m'arrive. J'ai perdu tout le contrôle.
Je suis persuadée que si vous faites un beau travail là-dessus, vous allez pouvoir soigner les blessures qui sont à l'origine de ce comportement.
Parce que mes filles me disent « Maman, tu pourrais faire autre chose et tout, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Rien. Il n'y a rien qui me fait plaisir à part. »
Oui, mais ça, c'est un faux plaisir. C'est ça que vous allez travailler en thérapie. C'est pas un vrai plaisir, parce que le vrai plaisir est quelque chose qui fait du bien. Là, c'est un plaisir factice qui vous fait du bien pendant quelques minutes et qui vous fait du mal pendant des mois.
Oui, c'est la vérité.
Et donc, en hypnose, on travaille aussi, c'est ce qu'on appelle une négociation entre parties, pour aller expliquer à cette partie-là que le vrai plaisir, c'est pas ça. Et que c'est pas là que vous allez trouver réparation à tout ce qui vous a fait souffrir dans la vie. Mais je comprends aussi quand on vous dit « tu pourrais faire autre chose », non, parce que si vous pouviez, vous feriez autrement, évidemment. C'est pas si simple. S'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour changer de comportement, ça se saurait.
C'est vrai. J'arrive pas. Il n'y a rien qui m'intéresse. On dirait que mon cœur, il est mort juste pour ce truc-là, non. Juste pour les machines à sous, mon cœur, il est vivant.
Il n'est pas mort, votre cœur, Linda. Il est en boule à l'intérieur et il faut aller remettre plein de lumière pour pouvoir le relancer.
D'accord.
Et ce que je vous propose, c'est que vous me rappeliez dans quelques temps pour me dire un petit peu comment ça va mieux et comment vous avez avancé sur ce chemin-là.
Oui, d'accord.
D'accord.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse, Linda.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
Bon, alors j'ai prié le dieu du standard, j'ai fait une incantation, j'ai un trèfle à quatre feuilles, je croise les doigts. Une fois, deux fois, trois fois. Hervé, êtes-vous là ?
Oui.
Ah, bonsoir Hervé.
Bonsoir Sabine.
Vous m'avez fait peur. Vous avez la radio derrière vous, Hervé ?
J'ai rien, non. C'est vous qui avez mis la musique. Ah oui, j'ai peut-être la
radio.
Non,
vous avez la radio derrière, je m'entends parler derrière vous.
Oui.
Ah, bonsoir Hervé.
Bonsoir Sabine.
Vous m'avez fait peur.
Est-ce que vous pouvez couper le son, s'il vous plaît, Hervé ? On ne va pas y arriver. Hein.
Attendez.
J'attends.
Mais je serais tout obligé de couper, alors c'est pas bien.
Mais si, pourquoi c'est pas bien ?
Ah oui, j'ai peut-être la radio.
Vous avez la radio derrière, je m'entends.
Attendez. Voilà, ça va là ? Allô ?
Oui ?
Sabine ?
Oui, je suis là.
Vous m'entendez là ?
Ah, mais je vous entends à la perfection, Hervé.
Bon.
On va y arriver, on va recommencer. Allez, 1, 2, 3, bonsoir Hervé.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Hervé ?
Eh bien, écoutez, vous m'avez eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais vous parler ce soir d'un... Ah oui, je me dis aussi, bon, bah, en écoutant l'émission, bah, des fois, c'est un peu la cour des miracles, comme on dit. Hein.
Oui.
Mais... Sans aucune supériorité, quelle qu'elle soit, d'écraser ou de... C'est pas ça mon but, mais c'est vrai que c'est un peu la cour des miracles. Les gens viennent avec des doléances. C'est un peu comme dans les cabinets de psychiatres. Les gens viennent avec des doléances. Chacun, alors le pauvre médecin, il doit être prêt à accueillir tout, prendre tout en pleine figure.
Oh, moi, j'ai pas l'impression de prendre tout en pleine figure. J'ai l'impression simplement d'ouvrir les bras, d'écouter, d'ouvrir mes oreilles aussi, et puis d'accueillir.
Ah, mais vous les ouvrez formidablement, parce que vous êtes ouverte complètement. Tous les chakras sont en éveil.
J'aime bien l'image.
Oui, oui. Ben, écoutez, de toute façon, il faut pas trop non plus se prendre au sérieux dans la vie, parce que qu'est-ce que vous voulez? Les choses, elles évoluent, elles passent, le temps passe. Là, on court après des chimères, des fois. On court après beaucoup de chimères dans la vie. Il faut relativiser tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'y peut rien.
Ça, éviter de se prendre au sérieux, je suis assez d'accord. Ouais.
Oui, oui.
La vie n'est qu'un jeu.
Vous savez, moi, oui, c'est un jeu, enfin, c'est une forme de jeu, oui, oui. Mais qui peut être des fois mortel, qui peut être...
qui est toujours mortel, ça, malheureusement, je vous le garantis.
Ah oui, 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 oui. Ça peut être dramatique, des fois.
Oui.
Oui. Et en fait, il faut faire sérieusement ce qu'on a à faire sans se prendre au sérieux.
Exactement, oui. Bon, à part ça, Hervé, vous n'appelez pas juste pour philosopher, j'imagine.
Non, mais je... On dit filer aux œufs aussi, on dit philosopher. Enfin, non, je vous appelle parce que c'est par rapport à mes parents qui sont âgés. Mon père a 90 ans, ma mère en 86. Alors avec ma mère, je m'entends bien. Avec mon père, c'était difficile.
Oui.
C'est plus difficile. Bon, il est autoritaire, il est... Et alors, il fait croire... C'est marrant parce qu'il me prend... Il me prend quand je ne suis pas avec notre mère, eh ben, tous les deux. Et puis, il me fait des petites misères. Alors, je suis pas dupe, mais... je suis incrédule, c'est ça.
Quel genre de petite misère il vous fait, par exemple?
Oh, bah là, par exemple, bah, à une époque, là, ma mère, elle supporte plus ça. Donc, quand on mangeait des fois, tous les soirs, il m'envoyait une insulte. Il me disait, t'as arrêté de travailler, tu veux plus travailler, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Ben, je dis rien, je dis bon bah. Et puis d'autres fois, il me traitait de tous les noms, des mots d'oiseau, dictateur, enfin bon, j'en parle de fou. L'autre jour, il m'a dit je suis encore demi-fou. Enfin bon, c'est drôle ce comportement. Alors, c'est un genre de comportement un peu pervers narcissique.
C'est dommage qu'à 90 ans, il soit pas passé à autre chose.
Excusez-moi.
Je dis, c'est dommage qu'à 90 ans, il ne soit pas passé à autre chose.
Oh oui. Ma psy m'avait dit, ah oui, c'est pas très intelligent ce qu'il vous dit. Bah, je dis non, c'est pas très intelligent. En plus, il se veut très intelligent parce qu'il est ingénieur à la retraite.
Bah, il est peut-être intelligent, mais il n'est pas en paix avec lui-même, en tout cas. Parce que s'il l'était, il ne se comporterait pas comme ça.
Bah
oui, bien sûr.
Oh non, je suis bien content que vous me disiez. Il n'est pas en paix avec lui-même, oui, c'est ça. Et moi, j'ai beau faire. Alors maintenant, j'ai pris un parti, c'est de ne plus rien lui dire. Bon, je subis un peu comme ça. Bon, ça me déstabilise un petit peu. Puis après, je prends le médicament le soir. Puis je m'endors, puis voilà, puis j'y pense le lendemain, quoi. Je vis au jour le jour avec lui. Puis il a caché les poubelles, là, parce que tous les lundis soirs, on va déposer les poubelles dehors, parce que là, je suis à la campagne. Donc, je m'en occupe, ça fonctionnait très bien. Eh ben, tout à l'heure... Oui, on peut dire hier, puisqu'on est déjà dans la journée dimanche. Hier, au dîner, j'ai pas trouvé les poubelles. Je dis, elles sont où les poubelles? Il me dit, c'est ta mère qui les a déplacées. Après, je demande à ma mère, elle me fait non de la tête. Vous voyez, c'est bizarre. Hein.
Oui, après...
Il veut commander.
Oui, il y a ça, il y a un côté manipulation. Et puis, est-ce qu'il a vraiment toujours toute sa tête? Est-ce qu'il est toujours très lucide? Allô? Allô, allô, Hervé? Bon, décidément, on ne va pas y arriver avec Hervé. Alors, je suis désolée pour Hervé, mais la liaison est beaucoup trop chaotique pour qu'on retente une troisième fois. Donc, on essaiera demain soir de se parler si on arrive à avoir une liaison téléphonique meilleure. Et donc, du coup, j'accueille Nastasia. Bonsoir, Nastasia.
Bonsoir, Sabine.
Bon, j'espère qu'on ne va pas avoir de soucis de téléphone avec vous.
Non, même si je suis loin, j'espère que... Oui, je pense que ça ira.
Où êtes-vous?
Alors là, je suis au Luxembourg tout de suite.
D'accord.
Bon, mais je vous appelle pour un problème qui se situe en France. Et comme je sais que vous avez souvent des bons conseils bienveillants et aussi pratiques, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu la situation qui concerne ma grand-mère.
Oui.
Donc voilà, ma grand-mère, elle a 93 ans. Il y a 10 jours environ, elle a été hospitalisée pour une bronchite. Elle avait une infection pulmonaire. Et donc, son pronostic vital était engagé. Après 48 heures de traitement antibiotique, ça n'a pas fait d'effet. Donc, les médecins ont décidé d'entamer, on va dire, le protocole pour les soins d'accompagnement pour la fin de vie.
Palliatif.
Oui, voilà. Enfin, ce n'était pas encore les soins palliatifs puisqu'elle était encore en soins intensifs. Mais c'était les soins, comme ils disent, d'accompagnement, il me semble. Voilà. Et donc, avec de la morphine, sans pour autant continuer son traitement de fond puisqu'elle avait des problèmes cardiaques et rénaux. Donc vous pouvez imaginer qu'à 93 ans, effectivement, le corps en prend un coup.
Mais oui, bien sûr.
Mais grosse surprise, finalement, après 5 jours, ma mère s'aperçoit, puisque ma mère l'accompagne beaucoup, elle s'est toujours occupée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle. Et elle s'aperçoit que finalement, elle arrive à respirer sans oxygène. Elle demande quand même au médecin de revoir ce qu'il se passe. Les médecins avaient arrêté, en fait, de la suivre et de suivre,
l'évolution.
Oui, l'évolution, c'est ça, parce que pour eux, c'était déjà fini. À chaque fois, ils nous ont dit la mort est imminente dans les 48 heures, mais bon, rien ne se passait. Et finalement, l'infection pulmonaire se résorbe. Et du jour au lendemain, ma mère, donc un jour, ces jours derniers, va à l'hôpital, je crois que c'était mardi, et elle a été transférée en soins palliatifs, et plus du tout en soins intensifs, sans qu'on en soit averti. Donc, surprise déjà. Et donc ma grand-mère maintenant se trouve en soins palliatifs et ma mère a décidé d'être H24 avec elle à l'hôpital, mmh. Pour l'accompagner, pour si ce sont ses derniers instants, au moins qu'elle ait une présence, puisque dans les soins palliatifs, comme ils sont beaucoup occupés, une grosse charge de travail, il n'y a pas forcément quelqu'un pour les veiller. Voilà, donc ma grand-mère était sous l'effet de la morphine. Et puis finalement, là, depuis 2 jours, peu à peu, elle redevient vraiment consciente. Elle a toute sa tête, puisque à 93 ans, ma grand-mère avait déjà toute sa tête. Elle était très active, autonome dans sa maison, se faisait à manger, même si elle avait des aides à domicile pour faire le ménage. Mmh. Et donc là, depuis 2 jours, donc elle recommence à, reprendre goût à la vie, puisque ces derniers jours, avant, elle avait abandonné, puisqu'on lui disait qu'elle allait mourir, elle disait « laissez-moi partir », effectivement. Mais là, elle s'aperçoit qu'elle guérit, elle reprend conscience quand elle n'est pas sous grosse dose de morphine.
Mmh. Elle a choisi de désobéir, et j'aime bien l'idée.
Oui, c'est ça, effectivement, elle est terrible, ma grand-mère, elle est comme ça, elle a du caractère, une famille de femmes, et elle a choisi de désobéir, c'est... On n'y pensait pas, mais il y a toujours des petits miracles et elle va pas aller très bien, bien sûr, mais elle a choisi de désobéir et de réagir. Et finalement, maintenant, vous voyez, elle veut se battre, elle reprend à manger, elle mange des bouillons, boit. Et maintenant, elle dit « mais je veux retourner chez moi » parce que c'est sa maison. Et même si elle doit vivre que quelques jours encore, elle veut être chez elle, en fait. Et là, la situation est tragique parce que... déjà, elle ne veut pas rester en hôpital, vous savez, puisqu'elle est dans les couches. Ma grand-mère est quand même... elle n'a pas envie, en fait, de faire ses besoins dans les couches. Et en fait, elle veut maintenant rentrer chez elle. Et on a demandé maintenant au médecin pour... comment on peut faire maintenant, puisqu'il faut quand même une assistance, médicalisée chez elle. Mmh. Pour des soins, comment on peut faire pour la faire rentrer? Ils ont dit « non, mais c'est pas possible, en fait. Non, on veut pas. » Et ma mère leur a dit mais quand même, vous voyez bien que ce serait plus digne pour elle d'être chez elle. C'est plus quelque chose de plus serein et humain, puisqu'ils nous ont parlé beaucoup d'inhumanité si on continuait, si on faisait des soins qui s'apparentaient à de l'acharnement thérapeutique. Donc là, justement, on pourrait faire en sorte que ma grand-mère revienne chez elle et finisse ses jours dignement et comme elle le voulait. Oui. Et on arrive à une situation de blocage. Vendredi après-midi, ils ont dit à ma mère « oui, on va y réfléchir ». Mais plus on y réfléchit, plus ça ne va pas se passer, en fait, puisque ma grand-mère, plus on attend, plus elle risque de mourir, voilà. Oui. Et mon appel, désolée, je parle beaucoup.
C'est important, Nastasia, qu'on comprenne le contexte, évidemment.
Et voilà, donc du coup aussi je vous appelle parce que en dehors de la situation tragique où ma mère est épuisée, qu'elle accompagne ma grand-mère et que ma grand-mère finalement est triste maintenant, pas en dehors, hein, c'est justement tout le fond du problème, même à 93 ans, même si on est âgé, on a envie de mourir dignement, même s'il n'y a pas de mort jolie ou belle ou agréable. Et voilà, maintenant on est bloqué, on a l'impression, et c'est ce qui se passe, que l'hôpital bloque pour qu'on ramène ma grand-mère chez elle. Alors, comment faire? Il y a sûrement des protocoles qu'on loupe à chaque fois. Et est-ce que je voulais savoir s'il y avait des auditeurs ou vous, si vous connaissiez la marche à suivre pour qu'on puisse arriver à cet objectif. Et voilà.
Alors, quels sont les arguments de l'hôpital? Si tant est qu'ils en aient d'ailleurs.
Non, mais c'est ça, c'est pour l'instant, le système est opaque. Alors, non, le système est opaque. Ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ma mère? Non, et tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'on allait y réfléchir, parce que jusqu'à maintenant, ils n'y croyaient pas que ma grand-mère, son état allait s'améliorer. Et voilà, ils lui remettent de la morphine sur morphine. Non, ils ne pensaient pas que ça allait s'améliorer, mais ces deux derniers jours, ça, la situation s'améliore. C'est très difficile de les avoir aussi longuement et de pouvoir discuter avec eux. Ma mère se retrouve confrontée à un mur et pour l'instant, il n'y a pas de réel argument.
Et ça fait combien,
parce qu'eux, ils n'entrevoient pas.
Ça fait combien de temps qu'ils réfléchissent alors?
Ça fait 2 jours. Et vendredi après-midi, hier, ils ont dit on va y réfléchir, voilà.
Ça ne me paraît pas délirant comme délai de 2 jours. C'est pas non plus, ça ne fait pas plusieurs semaines. Je pensais que ça faisait des semaines que vous faisiez face à un blocage complet. Je pense qu'ils se sont peut-être aussi un peu laissés dépasser par les événements. Ils l'avaient enterré un peu vite, votre grand-mère.
Oui.
Et je pense que peut-être là, en plus on est samedi, donc le week-end, j'imagine que le tout ce qui est cadre administration, ils sont en repos.
Exact, oui.
Il faudrait vraiment que les choses bougent la semaine prochaine, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute quand même, parce que 2 jours, c'est très court. Il me semble, alors évidemment, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de situation, mais il me semble qu'on peut signer une décharge quand on sort quelqu'un.
D'accord.
Est-ce que votre grand-mère est en état de signer elle-même?
Oui.
Bon.
Oui, puisqu'elle est consciente, elle m'a parlé au téléphone, elle parle à sa famille et à des amis qui appellent. Quand elle ne reçoit pas à nouveau une dose de morphine Oui, voilà, c'est ça.
Maintenant, attention, il faut évidemment faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'il faut que de l'autre côté, tout soit prêt. Est-ce qu'il y a déjà du personnel qui est là pour l'aider, du personnel soignant qui est prêt à venir? C'est aussi ça qu'il faut mettre en place avant de commencer à faire la bascule.
Et ça, c'est plutôt alors à nous, parce que comment on va... Oui, il faut savoir ce qu'on doit mettre en place, c'est ça, c'est... Est-ce que l'équipe à l'hôpital accompagne ça ou... cette prise en charge ou pas, ou c'est la famille qui doit vraiment maintenant...
Je pense qu'ils peuvent vous orienter, je ne pense pas qu'ils prennent en charge, je pense qu'ils peuvent vous orienter, mais plus simplement, est-ce que vous avez un médecin traitant? Est-ce que votre maman a un médecin traitant?
Oui, et le médecin traitant de ma grand-mère, là, on l'a appelé justement, et là, il a dit, mais non, mais je ne peux rien faire parce que je n'ai pas du tout d'infos, et non, il n'arrive pas à avoir des informations, c'est ça qu'on ne comprend pas.
Alors ça me paraît un peu embêtant, parce qu'il pourrait justement être l'interface entre tous ces gens-là. Les informations, lui il peut y avoir accès. Donc, quand il dit « je n'arrive pas », qu'est-ce qu'il fait pour essayer?
Oui, ben là, vous marquez un point.
Ça m'ennuie un petit peu qu'il réagisse comme ça. Alors qu'il n'ait pas tout de suite l'information, ça, je veux bien l'entendre. Mais qu'il dise « je n'arrive pas à les avoir », ça non, parce qu'un médecin, ça passe un coup de fil à un autre médecin pour avoir des informations. Maintenant, est-ce qu'il y a... votre maman est seule ou est-ce qu'elle a... son mari est encore là, votre père?
Oui, il y a encore mon père, oui. Qui s'occupe de formalités administratives. Elle a son frère et sa sœur, mais eux restent plutôt à distance. Ils n'ont pas voulu revoir d'ailleurs ma grand-mère une fois qu'elle était ensuquée avec de la morphine. Donc, mais il y a mon père qui peut l'aider.
Parce que ce que je pense, c'est que si au bout de quelques jours, la semaine prochaine... ça bouge pas. Peut-être il faut juste un peu hausser le ton. Aussi bien gentiment, mais juste un cran au-dessus, au niveau du médecin de famille, en disant, attendez, là maintenant, vous ne pouvez pas, mais c'est aussi votre boulot. Et au niveau de l'hôpital, en disant, écoutez, nous, on souhaite prendre cette responsabilité-là, c'est notre choix. Si on doit vous signer une décharge, on vous la signe, mais il n'est pas question qu'elle reste là.
D'accord.
Être un peu plus ferme, peut-être, dans la manière d'aborder les choses, mais en même temps... Pour l'instant, 2 jours, c'est quand même très très court.
D'accord, oui, c'est...
Je comprends que vous soyez dans une attente et dans une inquiétude, mais il faut aussi leur laisser le temps concrètement de réagir.
Oui, c'est ça, oui. Nous on se dit qu'il faut réagir vite, et parce qu'on voit ma grand-mère qui est pas bien, enfin, qui dit « mais qu'est-ce que je fais encore là, en fait ?» Et oui, c'est vrai que nous, on voudrait précipiter les choses. Oui, il y a peut-être aussi... des étapes bureaucratique, oui, auquel on ne pense pas, oui, effectivement. Et puis je pense qu'effectivement, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça prenne cette tournure-là, en fait.
Oui, je pense qu'elle a pris tout le monde de court et c'est tant mieux.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, si vous voulez.
Oui, là, on est peut-être un petit peu dans le mode panique, ça, c'est vrai.
Après, il faut appeler toutes les... Je ne sais pas par où ça passe, peut-être par une assistante sociale, peut-être par le médecin effectivement de famille, savoir quelles sont les aides auxquelles elle a droit. Mm-hmm. Aide à domicile pour l'entretien de la maison, aide aux soins, assistance pour tous ces soins-là. Et là, je pense que l'hôpital ne peut pas prendre ça en charge, mais peut vous orienter vers les bons services. Ça, ils ont forcément tous les contacts locaux de gens qui s'occupent de ça. Mais pour ça, effectivement, il faut instaurer un dialogue avec eux. J'ai l'impression que c'est là que ça coince, hein, que vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un qui prenne le temps de vous répondre.
C'est exactement ça, en fait. Oui. Justement, aux soins palliatifs, ma mère est restée. Pourquoi elle est restée H24 avec ma grand-mère? Parce qu'en réalité, des fois, ma grand-mère, une infirmière passe que 5 ou 6 heures après. Les médecins nous disent souvent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a eu des choses complètement hallucinantes, hein. Même du personnel, des infirmières qui nous ont dit « mais moi je ne suis pas là pour avoir de la compassion ». Bon, il faut essayer de faire abstraction de tout ça pour avancer, hein, bien sûr, mais bon, effectivement c'est difficile d'avoir vraiment les docteurs en soins palliatifs, oui. Ils ne sont pas vraiment présents, non.
On en revient à ce débat qu'on a depuis hier soir sur la libre antenne, hein, cette difficulté du personnel à être à l'écoute. Alors, il y a le manque de volonté de certains, mais il y a aussi le manque de temps, de possibilités d'autres. Hein. On en a beaucoup parlé là depuis deux soirs. Et votre maman, au milieu de tout ça, comment elle tient du coup? Comment elle gère tout ça?
C'est dur pour elle. Hein. Elle est épuisée, elle est dans un état d'épuisement total. Parce que je pense qu'elle aime accompagner sa mère, puisqu'elle l'a accompagnée jusqu'à maintenant, et puisqu'elle était comme... Ma grand-mère avait des problèmes rénaux, hein, comme je vous ai dit, cardiaques, donc elle l'aidait aussi. Non, mais ma mère, non, oui, elle est... Oui, j'ai peur qu'elle soit au bout du rouleau, au bout d'un moment, oui. Elle tient parce que c'est sa mère, donc elle veut tout faire pour elle, et... Mais c'est dur. Non, c'est dur, c'est compliqué pour ma mère, puisque en 2012, mon frère est mort, et c'est un enchaînement. J'ai un petit peu d'émotion, mais...
Je comprends. Et laissez couler l'émotion. Elle est là pour ça. Quand elle arrive, c'est qu'elle a besoin de sortir et de s'exprimer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses difficiles là, dans votre histoire de vie, si j'entends bien.
Oui, parce que je pense que c'est... Oui, c'est dur pour ma mère, c'est sûr. Et oui, moi aussi, mais quelque part, oui, c'est... Non, on peut pas. Oui, on peut pas prendre du recul, mais j'imagine que c'est la vie aussi. Elle est dure pour tout le monde, mais on essaie de faire au mieux.
Ce que j'entends surtout, c'est quand même, vous n'êtes pas seules les unes et les autres, vous êtes très entourées, il y a beaucoup d'amour dans cette famille-là.
Oui. Ah oui, oui, non, là, la famille, enfin, la famille, ma mère, enfin, avec ma grand-mère, on dit toujours, on est comme des petites matrioshkas, voilà. C'est vrai, on est soudés.
Oui, c'est un peu l'image que j'avais de vous trois, là, en vous écoutant.
Par exemple... j'étais revenue encore, là cet été, on est revenu plusieurs fois avec mon compagnon pour s'occuper de ma grand-mère, l'emmener. Elle a voulu aller, elle aime manger des crustacés, on l'a emmenée au restaurant. Et on est tous soudés avec ma mère. Et vous savez, c'est un petit peu cette génération sous un même toit, on est même à distance, oui, c'est soudé. C'est pour ça que j'essaie d'aider au mieux ma mère, c'est pour ça que c'est moi qui vous ai appelé, parce que là, elle est... en train de veiller ma grand-mère et on essaie de soutenir comme on peut, de trouver des solutions pour que personne ne flanche.
Des solutions, je suis persuadée qu'il y en a, mais qu'effectivement, personne ne vous répond et personne ne vous les propose.
Oui, il faut être directif en fait, c'est ça.
J'aimerais pouvoir vous orienter plus directement, mais ce n'est pas mon domaine, le milieu hospitalier et c'est les soins palliatifs, je ne connais pas grand-chose. En revanche, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques jours, haussez un peu le ton. Gentiment, mais fermement, en disant voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas vous allez réfléchir, c'est pas un jour peut-être. C'est là, c'est cette semaine, on va la sortir. Sachez que la décision est prise, voilà. Quelles sont les formalités pour qu'on puisse la sortir? Point.
Je pense que vous avez raison, il faut que mon père
Quelquefois, c'est malheureux à dire, c'est malheureux à dire, mais quelquefois, il faut que ce soit un homme qui hausse le ton.
Oui, et puis comme ma mère est tellement impliquée émotionnellement, en fait, mon père aussi, bien sûr, mais il a peut-être un petit peu plus de recul et lui va savoir être directif. Vous avez trouvé une des clés.
Oh, c'est pas grand-chose, mais c'est effectivement une manière de faire basculer un petit peu, avancer en tout cas la situation. Mais surtout, le plus rapidement possible, mettre en place tout ce dont elle a besoin, parce que c'est ce qu'ils vont vous rétorquer probablement. Ils vont vous dire, attendez, vous êtes bien gentil, mais comment vous allez la gérer ?
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est là qu'il faut que vous puissiez leur dire, voilà, on a une infirmière à domicile, on a une aide à domicile, on a ce qu'il faut, quoi.
Oui, parce qu'il y a déjà des aides à domicile. Il y a des infirmières qui venaient tous les jours pour des soins pour ma grand-mère. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas un cabinet d'infirmières qui puisse passer.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus que ce qu'il y avait avant ? Ou pas forcément ?
Bah, il faut déjà qu'elle reprenne son traitement de fond. Et après, il faudra un petit peu plus, oui, pour... un petit peu plus, oui, mais pas par contre, il n'y aura pas besoin de soins comme en soins intensifs. Donc oui, vous avez raison, il faut déjà se rapprocher sûrement des infirmières qui la connaissent.
C'est ce que j'allais vous dire,
oui.
Si ça s'est bien passé à l'époque, vous pourriez peut-être vous rapprocher effectivement de tous ces gens-là qui étaient là et leur dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce que vous me suggérez ?
Vous avez raison, dans la panique, je pense, et la fatigue, on a perdu ça de vue, oui.
Mais souvent, quand on a un souci, le fait d'en parler permet d'avoir un peu de recul et de voir des choses qu'on ne voyait pas quand on a le nez dessus, c'est normal.
Oui, c'est super. Vous permettez de réfléchir, de prendre du recul et d'élaborer une stratégie. Merci. Vous avez donné des clés et je peux que vous dire merci parce qu'il fallait prendre du recul et on n'était plus capable, je pense.
Mais je vous en prie, c'est pas grand-chose. C'est vous qui l'avez pris ce recul, c'est pas moi.
Mais vous avez aidé en parlant, oui.
J'en suis ravie, mais c'est vrai qu'on est là pour ça. Et très souvent, on n'ose pas, quand on tourne en rond avec son problème et on est comme une mouche devant une fenêtre alors qu'il y a un bout de la fenêtre est ouverte, mais on se tape la tête contre la vitre sans se rendre compte que c'est ouvert sur le côté.
C'est ça, et... Quand ma mère m'a exprimé, enfin, quand on parlait encore tout à l'heure, parce que je vous ai écrit, je pense, en fin de journée, je séchais sur le problème, je ne savais pas du tout quoi faire, et je me suis dit, je vais vous écrire parce que peut-être que ça déclenchera quelque chose. Et vous voyez, vous avez réussi à déclencher quelque chose qu'on avait totalement perdu de vue. Mais je vous remercie beaucoup.
J'en suis ravie, Nastasia. Ce que je vous propose, c'est que vous mettiez ça en place et que vous me rappeliez dans quelques jours, ou même votre maman, si elle avait besoin de parler, si elle avait besoin d'être un peu soutenue. Dites-lui que, que la porte est grande ouverte.
Hein. Je vais lui dire parce que... En fait, je lui ai parlé plein de fois de vous depuis même la mort de mon frère. Et oui, je pense que c'est elle qui devrait vous appeler aussi.
Mais n'hésitez pas vous non plus. Hein. Sachez que vous êtes vraiment la bienvenue quand vous voulez, Nastasia.
Et je vous remercie beaucoup, Sabine. Et merci pour votre aide. Merci.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort.
Bonne soirée. Merci. Au revoir.
Au revoir. Et c'est déjà le générique de fin, notre émission se termine en douceur. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai fait un flop avec ma question sur les podcasts, c'est pas grave, pas beaucoup de réponses. Vous n'aviez pas envie de me dire si vous nous écoutiez en podcast, et bien demain soir je trouverai une question peut-être plus sympa qui vous motivera davantage. On se retrouve donc demain soir à partir de 23h pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles confidences bien sûr. D'ici là je vous quitte avec la phrase du jour. Le bonheur, c'est de s'assurer chaque jour de faire au moins une chose qu'on aime. Je vous souhaite une très belle nuit. N'hésitez pas à vous inscrire par mail d'ailleurs si vous souhaitez passer à l'antenne demain soir. Libre Antenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Vous mettez votre nom, le sujet qui vous préoccupe, votre numéro de téléphone. Et Maxime ou Estelle vous rappelleront demain soir pour que nous puissions échanger. Passez une bonne nuit, je vous embrasse.